Vous le savez maintenant, Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir tous deux les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Retrouvez, si vous le souhaitez, l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscule, backstagelepodcast.com. Aujourd'hui donc, troisième épisode consacré à Claire Le Maréchal, scénariste, au micro de Margot Delpierre, sur un montage et mixage de Thomas Langlin. Un entretien, je le précise, enregistré en décembre 2018.
Entre le moment où vous avez commencé dans le métier et aujourd'hui, le nombre de séries télé a explosé. Vous vous dites c'est super ou alors ça vous pousse à être toujours plus original?
On se dit c'est super parce que on a de plus en plus de possibilités, les genres s'ouvrent. Il y a encore 10 ans, les cases étaient très délimitées et dans le genre et dans le format. Maintenant, il y a dans le monde des séries qui s'affranchissent complètement des formats. Les Norvégiens nous disaient que pour eux, ça voulait plus dire grand-chose. Même dans les séries qui se vendent, bon, à l'international, ils sont un peu obligés de se conformer aux 45-50 minutes, mais avec Scam, leur série qu'ils ont conçue pour les adolescents et qui était un carton énorme, qui a commencé sur le net et qui est diffusé une fois par semaine. C'est une sorte de compilation des épisodes qui est diffusée une fois par semaine sur la chaîne publique principale. Voilà, ils se sont même affranchis du format et c'est très, très subversif. Bon, enfin, c'était pas la question de départ, mais je pense que s'il y a énormément de liberté dans l'ouverture des canaux de diffusion, des plateformes, bien sûr, ça nous impose d'être de plus en plus originaux pour se démarquer. Est-ce qu'on doit le regretter? Non, je crois pas. C'est tant mieux. J'en étais pas plus heureux quand il y avait 10 séries et qu'il fallait écrire dans des formats très limités. On n'avait pas beaucoup d'espace pour s'exprimer. Donc non, c'est vraiment une chance, je pense. On vit un âge d'or de la série. Ça pose des problèmes de financement, de modèle de production, de droits d'auteur. Et là, on va vers une période qui est assez inquiétante pour notre système français, qui était quand même très très favorable aux auteurs et où le copyright nous assaille de toutes parts. Donc c'est-à-dire qu'on a les interlocuteurs qui envahissent le marché pour le meilleur, pour en tant que spectateur, et aussi pour les auteurs, parce que ça offre plus de possibilités de s'exprimer. Ce sont aussi des gens qui arrivent avec des modèles où l'auteur est... Il a une très grande place quand il est créateur et qu'on a besoin de lui et on peut le payer très bien et lui donner beaucoup de liberté s'il est déjà reconnu par ailleurs. S'il est engagé sur une série en tant que petite main, ça va déjà être beaucoup plus compliqué. C'est le cas aussi sur les chaînes françaises, mais quand même beaucoup moins. Il sera virable facilement du jour au lendemain. Et comme les producteurs qui travaillent pour Netflix, par exemple, n'ont plus les droits des séries qu'ils produisent, ils deviennent des exécutants. Alors, on peut faire de très belles choses dans la commande et dans l'exécution, mais ça change la donne dans l'attachement qu'on a à un projet et la propriété qu'on en a pour l'exploiter ensuite, pour les producteurs, mais aussi pour les auteurs. On va travailler différemment, forcément.
C'est plus vraiment votre projet, quoi. Ça vous appartient plus.
Ça nous appartient moins et ça pourrait ne plus nous appartenir si on rentrait dans le système du copyright où oui, on est très bien payé pour faire quelque chose qui ne nous appartient plus après et qui est... Enfin, on est très bien payé dans le meilleur des cas, hein, parce que c'est pas toujours le cas non plus, mais qui est dans la philosophie et pas du tout la même chose.
Et ça, vous en discutez avec des collègues scénaristes, c'est quelque chose
qui
vous inquiète?
Oui, c'est
l'arrivée de modèles américains, peut-être moins protecteurs et moins avantageux.
Oui, on en parle, bien sûr, on en parle beaucoup dans nos institutions représentatives et à la CACD, qui est aujourd'hui le meilleur garant de notre modèle et qui s'acharne à démontrer que le droit d'auteur est compatible avec la modernité et la circulation des œuvres et que c'est un système vertueux et qui, pour nous, français nous garantit un statut très privilégié par rapport aux auteurs étrangers. On touche des droits liés à l'exploitation de nos œuvres qui sont d'abord transparents, enfin on sait ce qu'on touche et qui sont très conséquents par rapport à ce que touchent nos voisins et par rapport à ce qu'on touche sur les plateformes qui, même si la SACDR a réussi à négocier quelque chose, on touche des clopinettes. Même si on fait un succès international. Donc après, à nous de négocier avec nos producteurs des contrats qui nous intéressent aux recettes, mais comme eux-mêmes n'ont plus les droits des séries qu'ils produisent, ça change complètement la donne, oui.
On vit mieux quand on est scénariste français que scénariste américain.
Ah oui, alors américain, dans ceux qui réussissent, non. Mais je pense que les États-Unis, c'est vraiment l'autre modèle. Mais on vit mieux que les Allemands, on vit mieux que les Italiens, que les Espagnols. Ça, c'est incontestable. En Europe, on est ceux qui vivons le mieux. Après, il y a toujours des très grosses disparités à l'intérieur de la communauté des scénaristes en France et parmi les scénaristes étrangers aussi. Et il y en a peut-être plus ailleurs, mais on essaie d'encadrer un minimum notre profession. Elle est très encadrée chez les Américains. Donc, chez eux, on existe dans des bonnes conditions, sinon on n'existe pas. C'est un peu tout ou rien. Avec, bien sûr, des stars qui, elles, peuvent prétendre à encore beaucoup plus. Mais chez nous, en moyenne, les scénaristes qui travaillent régulièrement, qui vivent de ce métier, vivent mieux que nos voisins européens.
En France, quand on est scénariste, on est payé qu'en droit d'auteur ? Comment ça se passe ?
Oui, enfin, en droit d'auteur pour l'écriture. Puis, tout est... Ce qu'on touche sont des avances sur nos droits d'auteur, sur les droits de diffusion. Et les primes, ce qu'on appelle les primes d'inédit, qui sont notre rémunération, sont aussi des droits d'auteur, qui eux ne seront pas, enfin on ne déduira pas ce qu'on a touché pour écrire de ce qu'on touche après sur nos droits de diffusion pour la remontée de recettes et ce que nous doit le producteur sur l'exploitation de l'œuvre future, qui en pratique aujourd'hui est à peu près nul, hein, c'est-à-dire qu'on touche aujourd'hui, c'est ce pourquoi on est payé pour écrire, c'est un contrat d'écriture qui est financé quand on travaille à la télévision à moitié par la chaîne et moitié par le producteur. Et ensuite, on touche des droits de diffusion au moment de la diffusion. En théorie, tout ça n'est qu'une avance sur les recettes qui sont déléguées à la SACD pour ce qui concerne la diffusion par la chaîne. Et puis, si le producteur vend notre série dans le monde entier, on est censé en retirer des recettes. Actuellement, d'abord, ça arrive assez rarement. Ensuite, les pourcentages sont tellement faibles que les remontées de recettes ne concernent pas les auteurs. Mais ça fait partie des chantiers sur lesquels travaillent nos syndicats et nos représentants pour que les auteurs soient associés au succès de leurs œuvres quand le producteur s'enrichit, que le scénariste s'enrichisse aussi. En tout cas, le créateur de la série.
En même temps, vous êtes toujours dans l'ombre, mais avec l'essor des séries, vous en sortez un petit peu.
Oui, on en sort un petit peu. Un petit peu. Oui, on commence à connaître quelques noms de scénaristes en France, alors que c'était réservé aux Américains jusque-là, ou à quelques anglo-saxons et scandinaves, chez qui le modèle de l'auteur showrunner s'est imposé beaucoup plus vite qu'en France. En France, on connaît les comédiens et les réalisateurs, mais
pourtant, quand on
moins
est,
le scénariste.
Mais ça change, ça change. Quand on est fan de séries télé, quelque part, on s'en fiche qui réalise l'épisode. Quand on est fan d'une série et qu'on a très envie que les saisons se poursuivent, on se demande qui écrit, en fait.
Oui, parce que c'est l'auteur qui a la voix de la série et qui la porte, quels que soient les réalisateurs qui peuvent se succéder. Parfois, le réalisateur, aussi brillant soit-il d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de séries qui se sont lancées avec des très bons réalisateurs, et même aux États-Unis, et qui ont continué avec des réalisateurs moins connus et qui ont fait un travail remarquable pour la série. Mais ici, quand on a commencé Fais pas ci, fais pas ça, Anja Ferry, la créatrice, dans Télérama, c'était une série de Pascal Chomeil qui a réalisé les 4 premiers épisodes et pas les suivants, alors que c'est elle qui a conçu, écrit et vraiment créé la série. C'est pas elle qui était citée. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne se produirait plus.
Il y a une reconnaissance qui commence.
Oui, ça commence. Ouais. Je pense que 10% est identifié comme la série de Fanny Herrero. Que
d'ailleurs, quand Fanny Herrero annonce qu'elle s'en va,
la série de Jean-François Alain et de nous dans une au second plan, mais c'est tout à fait légitime, mais c'est Jean-François qui est mis en avant et c'est normal.
Quand Fanny Herrero dit qu'elle quitte, qu'elle oui. n'écrira plus la suite de 10%, on en parle dans tous les médias, donc ça prouve bien que...
Oui, ça change, ça change. Ça change, mais c'est très récent, oui, ça a 5 ans.
D'autant plus que, enfin, pour beaucoup de séries américaines que je regarde, j'ai l'impression que chaque épisode est réalisé de toute façon par une personne différente ou presque.
Oui, pas toujours, mais. Et puis les scénaristes réalisent souvent aussi certains épisodes, mais aux États-Unis, le showrunner qui est toujours coproducteur de la série est celui qui a le rôle principal, qui est responsable de. Non seulement de l'écriture, mais aussi de toute la fabrication, voire de tout le financement. Enfin, c'est de tous les aspects financiers. C'est vraiment un super producteur. Et on est très peu à être capable de faire ça. Enfin, Éric Rochon fait ça. Mais ça reste très rare en France. Ça nécessite beaucoup de formation, beaucoup d'expérience. Et c'est difficile de prétendre le faire. La FEMIS vient de mettre en place une formation de showrunner. On a souvent essayé, en partenariat avec la SACD, avec l'INA, la Guilde des scénaristes, de mettre en place des formations pour aider les auteurs et les créateurs de séries à prendre la main et à aller plus loin que l'écriture, ce qu'ils font déjà. La direction d'écriture, ça se fait depuis très longtemps. Mais d'aller au-delà de ça pour être vraiment assumé et tenir tous les choix et les responsabilités qui vont avec sur l'ensemble d'une série, c'est un travail colossal, extrêmement difficile et qui demande des qualités humaines aussi qui ne sont pas les mêmes que celles d'un bon auteur. Enfin, on peut être un très bon auteur et être un mauvais showrunner parce que ça suppose aussi de savoir diriger une équipe, tenir la pression, gérer un budget. Même si on n'est pas responsable financièrement, il faut avoir conscience de ce qu'on peut faire et pas faire financièrement, savoir réécrire une scène au dernier moment parce qu'on a perdu le décor, savoir avoir une vision sur une saison entière et savoir ce qui va être le mieux, ce qu'on va sacrifier, si on a est-ce qu'on va garder tel comédien qui demande à doubler son cachet plutôt que de créer un nouveau décor ou... C'est une multitude de choix de tous ordres qu'il faut faire en permanence tout en écrivant et en gardant le cap de ce qu'on veut raconter, c'est extrêmement difficile.
Ça veut dire aussi que si on fait ça, on n'a plus le temps de faire autre chose, non ?
Non, je pense que ça, quand on est showrunner d'une série, je pense qu'on ne peut faire que ça. C'est vraiment très très chronophage et c'est d'ailleurs les Américains disent que il ne faut pas espérer pour ceux qui le font avoir en même temps une vie de famille où on ne parle même pas d'écrire autre chose, mais c'est un plein temps qui est au-delà du plein temps. Il y en a beaucoup qui écrivent quand ils rentrent chez eux, c'est-à-dire vers minuit après avoir fait tout le reste. C'est un poste qui est extrêmement difficile à tenir et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui le fantasment et qui en seraient pas capables. Après, sans tout faire, il y a aussi beaucoup de progrès à faire de notre part et de la part de nos partenaires et des producteurs au premier chef pour associer davantage le scénariste et le responsabiliser jusqu'au bout sans lui donner forcément la totale responsabilité du processus. On a plein de choses à apprendre et des degrés de collaboration variés. On peut inventer. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas deux séries qui fonctionnent exactement de la même façon. Et on peut, sans tout faire et sans être omnipotent et star, comme certains showrunners américains, on peut aller plus loin que l'écriture du scénario en prenant des responsabilités sur la suite sans tout faire non plus. Et je pense que les producteurs sont aujourd'hui beaucoup plus ouverts à ça qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années. Ils ont bien compris que quand le scénariste est investi et qu'il est capable de le faire, c'est moins de travail pour le producteur et... Enfin, c'est une collaboration fructueuse et pas une déperdition de pouvoir.